Alors, je vous propose de conclure. J'appellerai Claude Terrazzoni pour faire les conclusions, parce que vous connaissez tous Claude Terrazzoni. Et
jusqu'à sa mort.
Je disais que je me suis occupé
de Madame de Wattine jusqu'à sa mort. On a pris soin d'elle et elle nous a raconté beaucoup d'histoires. Aéronautique.
Bien.
Jacques m'a demandé de conclure et je n'avais que le titre de ce qu'on a fait ici. Je ne connaissais pas le contenu, je me doutais de ce que les uns et les autres allaient dire. J'ai été très intéressé parce qu'il y a des choses que j'avais oubliées. On oublie vite, c'est dommage. Mais je voudrais y revenir parce que sur les Toulousains, bon, moi je ne suis pas Toulousain, je suis pas loin d'ici, je suis un Perpignan. Je suis catalan de par ma mère et corse de par mon père, dont j'ai un caractère particulier. Et Bernard Besson, qui a été mon ingénieur système du Mirage 2000, qui nous a fait l'honneur de venir ici aujourd'hui, en dépit des grèves des contrôleurs aériens, me connaît bien, il sait ce qu'on a fait ensemble. Alors, pour ne pas arriver les mains dans les poches, je les sors, délit, certains vous avez pu y participer. Moi, j'ai commencé par la vie de Mermoz. J'ai eu l'admiration pour les pilotes, pour Mermoz. Et donc, j'ai commencé par faire une chronologie au travers de la vie de Mermoz, mais en y rajoutant tout le reste. C'est ce que je lui ai expliqué. Ensuite, j'ai relu la bataille de Verdun. 700 000 morts, 230 000 Français, 230 000 Anglais, ne l'oublions pas. Les Anglais étaient avec nous, et moi j'ai une vraie admiration pour l'Angleterre, car ils ont la ténacité, la vision. Ce sont des gens qui sont des gens courageux. Et bon, de temps en temps, quand on fait de la coopération avec eux, ils préfèrent nous laisser payer. Mais il n'empêche que ce sont des gens admirables. Alors, ensuite, j'ai établi une chronologie que j'ai démarré en 1901, donc je ne suis pas allé sur les dirigeables, mais dans ma chronologie, avant que Blériot ne fasse la traversée de la Manche, il y a des ballons qui ont fait la traversée de la Manche avec des passagers. Et donc, lorsqu'on fait cette chronologie, on voit que tout le monde fait de l'aéronautique, et pas qu'à Toulouse. C'est ce que je voudrais vous dire d'abord, c'est pas qu'à Toulouse. Mais ayant été un peu dans l'organisation ou l'arrivée de ce musée de l'aéronautique à Toulouse, il a fallu, avec un muséographe, faire la muséologie du musée. Je pense que si les associations que je préside les avaient fait tout seul, ça aurait été un fourbi, on n'aurait pas pu circuler. Heureusement qu'on l'a eu, et il nous a fait refaire des fresques avec l'histoire. Mais on fait un musée de l'aéronautique. On ne fait pas un musée aéronautique des Toulousains, comme le musée du Bourget. Alors, on a du chemin à faire pour arriver à ce qu'a fait le Bourget, mais on a fait quelque chose de pas mal, et on voit quand même sur la fresque, vous irez la voir, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on parle des Toulousains, et je pense que de Wattine et la Técoère, on ne peut pas. Parce que, aussi bien les deux, je ne vais pas reprendre ce qui a été dit, mais si vous voulez, moi je suis, quand je lis cette chronologie, je suis sidéré par la vitesse de l'évolution. Entre le premier vol des frères Wright et la guerre de 14, ça fait peu la vitesse à laquelle ça va. Et on fait la guerre. On fait la guerre. On arrive à faire la guerre et on arrive à découvrir quelque chose d'extraordinaire que les militaires découvrent avec nous, mais ce sont les militaires qui. C'est que d'abord on fait de la reconnaissance, d'abord où sont les autres, c'est normal. Aujourd'hui on fait ça avec des drones, on n'a plus besoin d'aviation de reconnaissance. Puis il y a des drones intelligents. Il y en a qui font même la guerre avec les drones. Ensuite, on fait des bombardements. Imaginez à Verdun, les Français ou les Allemands qui sont loin dans les lignes arrières, qui reçoivent les trois bombes que le gars lâche par-dessus, parce que c'est un stamp, un avion qui va à 140 km/h, il prend trois bombes de 20 kg, je ne sais pas comment elle faisait, il lâche ça, les gars ils pensent que le ciel retombe sur la tête, ou que l'ennemi a une artillerie qui sort de l'ordinaire si elle tire à 50 km. Hein. Donc on fait peur à tout le monde. Et cette peur, un certain nombre d'entre vous l'ont signalé, elle s'étend aux populations civiles qui sont devant. Elles sont derrière les populations civiles. Et si je reviens à quelque chose qui m'avait impressionné pour vous reparler de l'Angleterre, vous m'en excuserez, mais j'aime beaucoup les Anglais. Pas surtout, mais sur ces affaires-là, ils sont quand même bons. Il y a une vingtaine d'années, ils avaient fait une reconstitution de Londres avec l'arrivée des V2. V2 était signalé, donc ça devait être en 1943. Et on voit des gens qui étaient animés, qui sont dans leur maison, devant le feu de cheminée, et on entend l'arrivée du pulseur réacteur. C'est un pulseur réacteur qui fait pic, 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 pic. Et tout d'un coup, le pulseur s'arrête. Et là, c'est la panique à bord. Où va-t-il tomber? Parce qu'ils savaient, ils en avaient tous les jours, tous les soirs. Il faut savoir ce qu'ils ont eu dans la Deuxième Guerre mondiale, les Anglais, et comment ils ont résisté. Et donc, on voit bien que dans la Première Guerre mondiale, la chasse, c'est pas ce à quoi on passe alors, mais on voit vite que si on n'a pas la maîtrise du ciel, on ne peut pas faire le reste. Et donc la chasse arrive et on a besoin de tout. Et on a même besoin de bombardiers stratégiques ou de bombardiers pour détruire des usines, détruire. Vous avez vu comment était la France à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Regardez des photos de Caen, hein, de la côte de Normandie, il n'en restait rien. Aujourd'hui, on appelle ça des trucs latéraux, là. Collatéraux. Donc moi, je suis impressionné par ce qu'on a fait. Je suis impressionné par ce qu'on a appris, tous, les ingénieurs, les militaires, et je suis impressionné par ce qu'on a fait. Par contre, je ne suis pas impressionné par la manière dont on a traité les choses avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un échec total de notre industrie, de nos armements. Alors, on peut dire c'est la faute à tout le monde, parce que quand vous parliez, M. Renard, des avions de ce brillant non-ingénieur qui a fait un 520, qui est une merveille, hein. Si on en avait eu plus pendant la Deuxième Guerre mondiale, et le 550, quel regret qu'il ne soit pas arrivé plus tôt, on livrait des avions sans viseur de tir. On livrait des avions sans rien. On ne peut pas faire la guerre avec ça. Donc on était désorganisés. Alors quand on regarde l'histoire, moi je la relis, je trouve ça très triste. On savait que Hitler n'appliquait pas le traité de Versailles, qu'il se réarmait avec des usines où on sortait 1000 avions par an. Hors de grandeur, c'était brillant. Et il y avait des bagarres aussi entre les armées pour savoir quel avion on fait. Alors, je passe un peu si on s'est arrêté à la guerre de 14, mais après, qu'est-ce qu'on en a fait, hein? Donc moi, je regarde et je suis heureux d'avoir entendu parler de PACO, de cette organisation, parce que c'est une organisation que j'ai connue, finalement. Il l'a mise en place, c'est un visionnaire. Parce que pour faire des avions, il faut savoir ce qu'on veut en faire. Il faut savoir quelle guerre on va faire, donc il faut anticiper, il faut réfléchir. Il faut avoir des gens qui savent ce que je vais faire. Donc il faut des bureaux d'études, il faut des centres de recherche. Tout ce qu'on a aujourd'hui sur la place, c'est parti de l'organisation de PACO. Le Centre aéronautique de Toulouse, c'est la succession de PACO. L'Oléran, les souffleries, on avait besoin de tout ça. Et donc je dirais, tout l'outil qui a été mis en place est extraordinaire pour faire les meilleurs avions. Il y a des fois ça ne marche pas parce que en France, là où on est pas bon, moi je pense, c'est que on n'anticipe pas assez.
Je vais citer deux ou trois exemples. Trouver la matière première pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est terrible, alors que l'Allemagne est en pleine guerre. Alors je vais raconter une histoire, parce que j'ai vu un film à la télé sur l'histoire qui m'a sidéré. Le film traitait de la fiche programme d'un avion et d'une dispute entre un chancelier allemand et son chef pilote qui s'appelait Galland. Tout le monde a dû l'entendre parler de Galland. Il est célèbre dans le monde entier. Et on voit en 1943 le Messerschmitt 262 qui est le premier avion au monde bimoteur. Alors j'allais dire de chasse, je le reprends. Et devant ce bel avion, pour lequel les Allemands, en 1943, utilisaient tous les gens qui ramenaient pour le service du travail obligatoire, le STO, soit de France, de Pologne ou d'ailleurs, construire une usine pour Messerschmitt, à 100 mètres de profondeur, à la pelle, pour pouvoir faire une usine de production de 70 ou 80 avions par mois. Et devant l'avion, alors là, je n'ai pas écouté le dialogue, mais les films d'époque voient qu'il y a une dispute terrible entre Hitler et Galland. Et le commentateur dit, ils se disputent sur la destination de l'avion. Galland dit, c'est le meilleur chasseur au monde, vous mettez deux câbles de 20 mm, et pas d'aboum, on va vous nettoyer le ciel. Et après, les bombardiers. Et Hitler dit, non, 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 on va y mettre des bombes, et on va vous faire un bombardier à basse altitude, et la DCA vous verra pas. Allez, on raconte ça, c'est extraordinaire. 1943. Qu'est-ce qu'on a pris, nous, pour faire la guerre à ce moment-là? Bien, donc si vous voulez, ce problème se pose toujours.
Tirer,
alors nous, on l'a résolu un peu l'arrondissement parce qu'on a fait une cellule, on a fait les deux avions, le très grand chasseur, capable de faire de l'interception ou de combat rapproché, soit avec les canons, soit avec les missiles, le combat rapproché. Et derrière, le très bon avion avec un air-sol moyenne portée ou une arme nucléaire, etc. Bon, donc avec la même cellule, on ne peut pas faire une mission avec le même avion le même jour. C'est pas possible. Il faut avoir les deux types d'avions. Donc, si vous voulez, moi je suis affolé de.
Tirer Toulouse après l'être.
De voir la vitesse à laquelle ça a évolué. Même pour nous, qui avons été portés pour demain, parce que moi, qui suis ingénieur militaire de l'air, mon premier métier, c'est amusant parce que je vais finir sur ces sujets, qui me passionne mais qui me gêne. Mon premier métier, quand je suis arrivé, je voulais faire des essais en vol, je suis rentré au centre d'essais en vol. À Bretigny, je ne suis pas resté longtemps. Trois mois après, on m'a envoyé à Colombie-Charles-Navire pour faire la mise au point de la force de frappe nucléaire française. Donc vous savez tous qu'il y avait trois composantes. La composante portée qu'on a installée sur Mirage 4 dans les forces aériennes stratégiques situées à Istres. Et ensuite, un SSBS et un MSBS. Bon, le général de Gaulle, qui avait commandé cette force, avait mis les moyens, on n'a jamais manqué d'argent, je peux vous le dire. Et ça se passait très bien. Et la manière dont on l'a fait, moi ça m'a plu. Sauf que et la dissuasion me plaît beaucoup. Parce que si vous voulez, les messages pacifistes, je suis pour. Mais pour faire du pacifisme, il faut être fort. Quand on est faible, aller dans une corde de réaction, les petits, c'est eux qui trinquent, c'est pas les gros. Et les gens qui ne comprennent pas ça, c'est catastrophique. Bon, les pacifistes, il y en a même en Notre-Dame-des-Landes, soi-disant, mais ça se bagarre entre eux. Et donc, je suis pour avoir une force de frappe et ne pas s'en servir. Et donc aujourd'hui, bon, ensuite, j'ai fait du Jaguar. J'ai fait du Mirage 2000, j'ai volé sur tous ces avions, c'était un peu plus vite. J'ai travaillé avec Bernard Besson qui était là, qui était un ingénieur système de qualité parce qu'on était dans une période où l'électronique et le numérique arrivaient vite, mais les calculateurs étaient encore assez gros, et on savait qu'il faudrait refaire tout pour gagner de la masse et de la puissance de calcul. Hein. On savait qu'il fallait refaire tout. Mais cela, les avions sont assez versatiles, il suffit de changer le système d'angle, la cellule, c'est plus difficile. Moi, ensuite, je suis venu à Toulouse au moment où on lançait la 320. Je suis parti, j'ai quitté les ingénieurs de l'armement parce que je n'ai pas aimé quelque chose. Et donc, je suis parti. J'ai pas aimé. Bon. Et je suis venu à Toulouse. Alors, il faut que je vous dise, parce que même les Toulousains ne le savent pas, c'est que la 320, c'est l'avion qui a été lancé le plus souvent au monde au Salon de Bourget. Pendant 5 ans, le Salon de Bourget, c'est tous les 2 ans, tous les premiers ministres ont lancé la 320. Il ne s'appelait pas 320. Il s'appelait le pivoteur 150 places, pour ceux qui s'en souviennent. Et tous les ans, tous les 2 ans, le Premier ministre le lançait et il ne marche jamais. Mais en 1983, il a été lancé, il a démarré. Bon, je suis arrivé et j'ai vu tous les restes, etc. Alors, je voudrais revenir sur la conclusion. Je voudrais vous dire 2 choses. Dernièrement, je regardais à la télé le porte-avions. On peut faire la guerre avec un seul porte-avions. Si un jour on est obligé de la faire, en mettant en Méditerranée, au large des côtes libyennes et ailleurs, c'est tenté comme on l'est. Et ça, ça ne me plaît pas. Moi, si j'ai voulu devenir ingénieur militaire, c'est parce que j'avais un respect pour l'armée et pour les gens qui se battent pour notre pays. Et même aujourd'hui, j'ai un très grand respect. Je pense que quand on ne respecte pas son armée, qu'on ne fait pas ce qu'il faut, on n'est pas correct. Il peut nous arriver des bricoles. Donc j'ai vu le porte-avions Charles de Gaulle qui sortait du carénage à Toulon, en Méditerranée, et on nous avait expliqué qu'il allait bombarder Raqqa pour essayer d'envoyer plus de bombes sur l'armée islamiste. Alors j'ai l'habitude, je ne regarde pas beaucoup la télé, je préfère lire, mais je zappe sur les chaînes d'information, je vois entre LCI, ITV, BFM et Euronews, et je peux contrôler s'ils disent la même chose. Bon, c'est amusant, puis ça prend 10 minutes. Alors, j'ai beaucoup zappé ce soir-là parce que la première m'a fait sursauter, et tout le monde montrait le porte-avions, des catapultages, mon Dieu, et vous savez qu'il y a beaucoup de débats sur ces chaînes. Bon, il y a des débats un peu longs, mais quelquefois, ils font venir des spécialistes et il y a des officines dans lesquelles il y a des anciens militaires qui viennent de dire ce qu'ils pensent. Et sur les 3 chaînes que j'ai regardées, les spécialistes ont dit la même chose. Oh, vous savez, les frappes du Charles de Gaulle, c'est moins d'1% de ce qu'il faudrait pour détruire. Je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais le pire restait à venir. Il y a des conseillers militaires qui disent, mais ce que vous ne savez pas, madame la journaliste, c'est que le Rafale largue des bombes que nous fournissent les Américains, parce que les sous-munitions de la France sont vides. J'ai cru mourir. C'est affreux. C'est honteux. C'est honteux. Et là, j'ai reçu, comme je suis à l'Académie de la Défense, et j'ai fini. J'ai reçu, je ne peux pas vous le lire parce que c'est vraiment un petit, même avec des lunettes, avec la peu de lumière qu'il y a, mais je vais vous dire ce qu'il y a. J'ai reçu donc le petit bouquin que l'on diffuse, dans lequel on cite les gens qui produisent, et c'est justement un livre de chiffres. J'ai vu qu'il y en avait une publicité de CETAN US qui fait beaucoup pour l'aéronautique, qui a fait beaucoup de choses, y compris pour des livres d'école, etc. Je connais bien la société d'édition. Et il y a 2 personnes que je connais bien, parce qu'il y a André Montet, qui a presque le même âge que moi, qui est un peu plus vieux, et Jacques Villain, qui est plutôt historien, vous connaissez tous, vous, au premier rang, qui vient d'écrire un livre qui s'appelle « Hiroshima à la dissuasion nucléaire ». Alors, ce sujet, je le connais bien, vous le connaissez bien avec Bernard,
Alors, quand je parle de nucléaire, je parle de nucléaire classique, uranium enrichi, plutonium, je ne parle pas de thermonucléaire. C'est un autre problème. Mais lorsque nous avions mis au point la force de frappe française, à la fin des années 65-66, elle s'est installée, dans le monde, il y avait trois puissances nucléaires. La Russie, l'URSS, pardon, les États-Unis et la France. Mais il faut quand même donner des chiffres, parce qu'on dirait des bêtises. La Russie avait 10 000 têtes nucléaires, hors de demande. Les États-Unis en avaient que 5 000, et nous, on en avait une centaine. Ce sont les ordres de grandeur. Très rapidement, et je sais pourquoi, parce que c'est un pays avec qui j'ai beaucoup travaillé, Israël. C'est doté d'une force, mais ils n'avaient pas besoin d'en faire de l'intercontinental, parce qu'ils visaient Téhéran, ils visaient Damas, donc c'est avec quelques trucs, ils s'en sortent, ils l'ont toujours. Et l'ONU, comme disait le général de Gaulle, le machin, c'est ça qu'il disait, hein, tu t'en souviens, hein, l'ONU et les diplomates qui sont à l'ONU, qui pérorent toute la journée, ils ont fait un traité de non-prolifération de l'arme nucléaire. Et aujourd'hui, on peut dire qu'elle n'a jamais autant proliféré. J'espère que vous le savez. Alors, qui a l'arme nucléaire? La Chine? L'Inde? Oui, on finit. J'en ai pour une. La Chine? L'Inde? Le Pakistan? L'Afghanistan? L'Afrique du Sud? Et aujourd'hui, je peux dire l'Iran. Parce que tout ce... à la Corée du Nord, oui. Enfin, j'en oublie, ça pourrait les faire, donc on ne peut pas tous les citer. Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui, quand vous voyez tous ces gens qui viennent à la télé vous expliquer que l'Iran s'ouvre, qu'on va faire du commerce avec les Américains en tête, les Français derrière, et personne ne dit que l'Iran a l'arme nucléaire, parce que tout le monde sait, Bernard, je te regarde, que lorsque tu fais de centrale, pour produire de l'électricité que tu mets de l'uranium avec de l'enrichi, puisse faire une bombe atomique. Alors, à qui on le fera croire? Et alors, c'est pas fini, parce que je vois mal comment l'Arabie Saoudite pourrait s'empêcher d'avoir l'arme nucléaire, compte tenu du fait que le voisin. Et donc, on est dans une situation catastrophique. Et moi, quand je vois qu'en France, on a arrêté le plateau d'Albion, on veut arrêter la force aéroportée et qu'on va garder que les sous-marins, on s'affaiblit et je pense qu'on n'est pas sur la bonne voie. Je vous remercie.